notre invité sur les solutions proposées par la gauche. Rendez-vous donc avec Jean-Luc Mélenchon dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Thomas Legrand avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20. France Inter.
La différence.
15h03 sur Inter, on retrouve Daniel Mermet pour la base si j'y suis.
Il m'arrive un truc bête, là, il paraît que le gouvernement de mon pays, là, j'appelle depuis la France, là, va interdire toutes les compétitions d'escrime. Parce que j'ai appris qu'il faisait passer une loi. Alors l'article 1, c'est que la loi interdit le port de toute tenue qui masquerait le visage.
Aux auditeurs qui jetteraient ce soir un coup d'œil sur France 3, sur une émission spéciale Deauville, un petit avertissement. On ne vous dira pas que cette ville, soi-disant de luxe et d'élégance, ne fonctionne qu'avec une armée de travailleurs payés au lance-pierre, exploités tous les dimanches et jours fériés, évidemment. On ne vous le rappellera pas que, derrière cette débauche de fric et de shabadabada, il y a des centaines de serveurs, femmes de ménage, employés de commerce, smicards, et au centime près. On vous montrera des palaces, des résidences secondaires somptueuses, sans vous signaler que les centaines de travailleurs de la femme de ménage aux jardiniers qui les nettoient, les entretiennent, vivent bien loin d'ici, puisque se loger près de Deauville leur est absolument inaccessible. Immobilier oblige, les riches veulent rester entre eux. Dans cette eau de Lelouchienne à l'argent qu'est Deauville, mais comme Neuilly, hein, ou le 16e à Paris, on ne souligne pas à quel point ces femmes élégantes et raffinées seraient bien ordinaires, bien banales, sans le travail de leur employé de maison. Le week-end à Deauville, on roule en 4x4 et on ne porte que des marques. Et si on rechigne à payer décemment ses employés, on dépense en revanche des fortunes dans les boutiques de luxe et au casino. En fait, il ne faut pas s'y méprendre. Derrière ces images de papier glacé, il n'y a que la vulgarité et la bêtise du fric.
Petit message pour vous tenir informé de la politique du gouvernement français en matière d'Internet et de respect des libertés individuelles, alors que l'Europe, à juste titre, il me semble, s'inquiète énormément de ce que font des sites comme Google, Facebook et consorts de nos données privées. Voilà que le gouvernement vient de lancer une plateforme destinée aux moins de 25 ans. Super, sur le site de Skyrock. Cette plateforme au joli nom de Waka propose de s'enregistrer, mais en passant par le site de Skyrock. Donc voilà le gouvernement français qui propose à notre belle jeunesse de directement laisser ses coordonnées à une entreprise privée pour avoir des informations concernant la bonne vie du citoyen. Voilà, nous vivons une époque formidable. Bon combat, à bientôt.
Très très bien, tes émissions continuent, hein. Continue à montrer aux gens ce qui ne va pas et ce qui va aussi, hein. Bravo. Alors je voulais te signaler, à Neuilly-le-Réal dans l'Allier, il y a des ouvriers désespérés de leur fermeture de l'usine. Ils font la grève de la faim. Ça s'appelle Vivanco. Vivanco, Vivanco, hein. Alors ça serait bien que tu envoies une équipe ou que tu leur téléphones, hein, au téléphone suivant, voilà, que tu peux mettre sur l'antenne, hein.
Oui, 04 70 43 15 12. 04 70 43 15 12.
Voilà, un petit effort. Allez, il faut tous se mobiliser contre toutes ces fermetures d'usines et délocalisations. Où est la main-d'œuvre là où elle est la moins chère, hein. Voilà, en Roumanie, 130 euros. Au Maroc, 100 euros. Et j'ai tout cela sans racisme. C'est une injustice totale. Il faut revenir à une juste répartition des richesses. Continue comme ça, Daniel. Bravo. Et merci à tous ces auditeurs qui appellent.
Bonjour, c'est Géraldine, infirmière anesthésiste. Je viens d'entendre au journal de France Inter que Roselyne Bachelot a répondu favorablement aux attentes des infirmiers anesthésistes. Il faut savoir que c'est faux. J'étais hier sur les rails à Montparnasse et pourtant mon métier c'est de soigner, pas de nuire aux gens. Je sais qu'on a, par ce mouvement, retardé beaucoup de trains et nuit à pas mal de gens. Simplement, si on en est là, c'est que Roselyne Bachelot, elle est complètement sourde à nos attentes. C'est la quatrième manifestation qu'on fait sans avoir plus de rendez-vous que ça. Et hier, rien n'a été décidé. Nous sommes ensuite allés au ministère de la Santé pour avoir porte close. Toujours rien, pas de rendez-vous. Ce qu'on nous propose seulement, c'est une date, le 3 juin, pour que nous expliquions nos revendications, ce qui a déjà été fait plein de fois. Donc ça n'avance pas, et en fait on se fout de nous, quoi. D'autre part, vous entendez beaucoup parler de revendications salariales, mais ce n'est qu'un des 4 points que nous soulevons dans cette grève, ce n'est pas le principal. Ce que nous défendons, c'est la sécurité au bloc opératoire pour tous les patients, et ça, c'est en train de se casser la figure, parce que notre formation est mise à mal. C'est ce qui nous gêne le plus aujourd'hui. On a envie de continuer à travailler, et à travailler bien, dans de bonnes conditions. Donc, c'était un appel à toute la population pour être soutenue et compris. Notre boulot, c'est pas de nuire aux gens, c'est de les soigner. Merci à tous et à bientôt.
Chaque jour qui passe, mon mari se dirige vers une paralysie des deux jambes. Il devait être opéré hier matin dans un hôpital du sud de Paris. Je suis tout à fait en empathie vis-à-vis des infirmiers anesthésistes qui protestent pour une juste cause et je les entends bien. Mais qu'est-ce que j'entends sur vos ondes ce matin aux informations? Pas du tout du sort des infirmiers anesthésistes, pas du tout du sort des malades qui attendent une intervention. J'entends parler de la paralysie de la gare Montparnasse et des TGV. Quand, enfin, de ce pays, intéresserons-nous aux causes et pas aux effets?
Bien vu, merci madame, merci chers auditeurs et auditrices modestes et géniaux et géniales. Et bien sûr, les causes, les effets bien sûr, mais les causes aussi, les causes d'abord et non pas les causes toujours. Aujourd'hui, là-bas, si j'y suis, continue son voyage au Japon. Et on reste quand même chez Toyota, parce que Toyota c'est le Japon et le Japon c'est Toyota. Est-ce que Toyota va si mal que ça? Est-ce que le Japon va si mal que ça? C'est pas sûr, sous certains égards. Comme on dit, au Japon, on en a sous le pied. Quand on dit ça chez Toyota, on trouve que c'est une très mauvaise plaisanterie. En jugé par les chiffres publiés par Toyota, l'entreprise ne va pas si mal que ça à travers les chiffres. Lorsqu'on regarde les chiffres du Japon, ça va pas si mal que ça à travers les chiffres, mais à travers les gens, à travers les hommes, à travers les propos qui sont tenus. On nous dit, vous savez, au Japon, c'est très difficile parce que ces gens-là portent un masque et sont extrêmement difficiles à sonder les cœurs et les reins. Oui, mais il y a aussi beaucoup de clichés sur ce pays et sur cette culture et sur ce Japon. Des clichés extrêmement commodes pour ne pas aller plus loin, ne pas aller voir en dessous du kimono, au moins soulever un coin du kimono. C'est ce que nous allons faire jusqu'à 16h dans la basse, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocal de la Bastille, ici au 01 56 40 37 37.
Toute l'équipe de Savigny Rebelle vous convie au dernier café repère de la saison, demain, mercredi 19 mai, à 20h30, au Jasmin. Pour une culture de proximité à Savigny, apportez vos idées, vos rêves, vos envies, vos talents. Et on finira la soirée en musique avec la merveilleuse Marga Esteban et Jean-Louis Fayolet à la guitare. Alors venez nombreux, à demain.
Ils sont en train de nous refaire le même coup que pour le référendum, donc il fallait absolument voter oui, bien évidemment, on a vu ce qui s'est passé. Ils sont en train de nous refaire exactement le même coup concernant le financement des retraites. Non, il y a d'autres solutions. Bien sûr qu'il y a d'autres solutions. Ne pas se laisser faire surtout. Donc à cette occasion, il y a tout un tas de collectifs unitaires qui sont en train de se monter dans tous les départements. Et donc nous ici, sur le bassin d'Arcachon-Val-de-l'Eyre, nous avons monté un collectif unitaire pour défendre ces retraites. Voilà, donc ça regroupe des partis politiques, des syndicats, des assos, des citoyens bien sûr, parce qu'on pense que l'action collégiale et collective la plus large possible est nécessaire pour mobiliser largement ensemble les citoyens, nous tous, quoi. Et le but de ce collectif est de créer un rapport de force suffisant pour s'opposer à cette réforme fatale de notre système de retraite par répartition. Donc voilà, nous avons monté ce collectif, nous avons fait déjà 2 réunions, il y a de plus en plus de monde. Donc si vous voulez nous rejoindre, ça se passe donc sur le bassin d'Arcachon, Val-de-l'Eyre. Je vais vous donner une adresse mail si vous voulez assister à la prochaine réunion. Donc c'est crbvde@gmail.com. com. Voilà, il ne faut pas se laisser faire. Il n'y a que comme ça qu'on peut créer ce rapport de force. Allez, à bientôt. Merci.
Bonjour. Citoyens de Lens, Le Saunier et du Monde, nous sommes attachés à la perspective d'une démocratie mondiale et locale, politique et économique réelle et radicale. Aussi, n'apprécions-nous pas davantage l'équipement à notre insu de la ville de Lens en caméras de vidéosurveillance que le pouvoir invisible mais destructeur de la haute finance mondiale sur nos vies. Venez en débattre le jeudi 20 mai à partir de 20h30 au bar Le Tiffany, rue Rouget de Lille, à Lons-le-Saunier. C'est un appel du Café Repère. Il y aura un conseiller municipal, des témoignages de famille. Nous vous attendons nombreux.
Il n'y a pas de délit de solidarité en France. Et toutes celles et ceux qui, de bonne foi, aident un étranger en situation irrégulière ne risquent rien. Ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. En 65 ans, depuis qu'existe ce fameux article L622.1, désormais célèbre, personne en France, personne en 65 ans, n'a jamais été condamné pour avoir simplement, comme je le lis, hébergé, donné à manger, transporté en autostop un étranger en situation irrégulière. Voilà ce que disait Éric Besson il y a un an, le 8 avril 2009, sur France Inter. Comme vous le savez tous, ensemble, tout devient possible, disait quelqu'un que nous connaissons bien. Bien, dans le Loiret, à Gien, un ressortissant afghan vit depuis 5 ans avec une jeune femme et RESF l'aide pour obtenir ses papiers. Harcelée par les gendarmes, la jeune femme de nationalité française, mère de 2 enfants d'âge scolaire, est maintenant convoquée jeudi 20 mai à 15h au parquet de Montargis en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. On lui reproche donc un délit de solidarité. Le mythe est devenu réalité dans le Loiret. Venez nombreux le constater avec nous au tribunal de Montargis, jeudi 20 mai à 15h.
ご利用くださいましてありがとうございました。お忘れ物のないようご注意ください。列車とホームの間は広く空いております。足元にご注意ください。本日も JR 東日本をご利用くださいまして、ありがとうございます。
ナイスクリタ。On voit des jeunes gens avec un blouson que je présume être le blouson Toyota. Ils sont en uniforme Toyota, le pantalon bleu-gris et la veste blanc-cassée. Et ça doit être des jeunes stagiaires, des jeunes, il faut se mettre en rang. Hein.
Ah ouais.
Là, l'expression petit soldat s'illustre parfaitement avec ces jeunes
Zop.
Zop.
Ah là 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 là, c'est Daniel Mermet, c'est la masse. J'y suis avec Guy Ventil, Japon, sous un coin du kimono.
Au musée Toyota, on nous présente des choses absolument magiques, merveilleuses. C'est un monde enchanté que celui de Toyota. C'est Toyota, c'est l'environnement. Toyota, c'est la culture. Toyota, c'est l'avenir. Toyota, c'est la civilisation. On voyait des images de la chaîne, les différentes étapes de la chaîne sur lesquelles tu as travaillé. Et remarquez une chose, c'est uniquement des robots qui font le travail. En tout, on a peut-être vu 3-4 personnes. Et seulement à la fin, quand ta voiture est terminée, ceux qui passent des gants blancs sur la voiture pour s'assurer que tout se passe bien, rien ne dépasse. Ils ont l'air de caresser la voiture comme on caresse les bœufs à Kobe, d'après la légende. Mais jusque-là, tous les épisodes difficiles, sales, violents, etc., aucun. Et les travailleurs, les quelques rares travailleurs qui sont présentés dans ce documentaire, ont des gants blancs et absolument pas une tache de graisse sur leurs vêtements. C'est exactement comme la pire propagande de l'Union soviétique.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, comme tu le dis si bien, on ne voit pas un homme.
それとあの会社のプロパガンダってことを言うと、この数年間トヨタに関するトヨタを賛美する、トヨタは素晴らしいという本が私が知ってるだけで30冊以上出てるんですね、この5、6年の間に。
Et puis autre chose très très amusante sur les 6 dernières années, je pense qu'il y a au moins 30 bouquins qui ont paru en librairie pour dire Toyota c'est formidable, Toyota c'est un système extraordinaire.
Ce qu'on est en train de raconter là, on pourrait le raconter en France, on pourrait le raconter aux États-Unis. On pouvait ou on peut encore le raconter en Angleterre, on peut raconter ça un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une particularité japonaise, il n'y a pas un Orient que nous ne pourrions pas comprendre, il y a bel et bien ces réalités-là contre lesquelles vous luttez.
C'est bien pour ça que je ne pense pas que le capitalisme va pouvoir durer sous cette forme pendant très longtemps.
Toque no botão de escolha de bebida quente ou bebida gelada.
Sakai Shonishi a passé 40 années de sa vie chez Toyota. Vous allez dire une chose, il n'est pas représentatif et vous aurez raison. Mais qui a dit que nous avions pour but de ne vous faire entendre que des personnes représentatives? Et représentatives de quoi? De la majorité? Alors certainement pas pour ce qui concerne Sakai Shonishi, mais représentatif d'une lutte persistante des travailleurs dans ce pays, des ouvriers dans ce pays, des salariés dans ce pays. Il y a une longue histoire des luttes sociales au Japon qui se passe très souvent sous silence et qui ne figure même pas dans les mémoires collectives occidentales comme japonaises. Aujourd'hui, on continue chez Toyota parce que Toyota, c'est le Japon. Et le Japon, c'est Toyota. Et Toyota, comme le Japon, ne sont plus ce qu'ils étaient. On n'arrive plus à freiner la descente du Japon et les Toyota, on n'arrive plus à freiner du tout. 9 millions de véhicules avec des risques de défauts de freinage. 9 millions de véhicules qui ont été rappelés, ça ne vous a pas échappé. 9 millions dans 6 millions. Aux États-Unis, alors aussitôt lorsqu'on apprend ça, on regarde le cours de la valeur Toyota. On se fait aussitôt d'un sang d'encre pour ces malheureux actionnaires qui n'auront bientôt plus qu'une seule boulette de riz par jour. Mais 9 millions de véhicules à réviser. On devrait se réjouir, ça fait du boulot, au prix d'une heure de garage, ça fait des emplois, ça fait de l'embauche. Et qui en parle? Eh ouais, c'est toujours le pauvre ouvrier qu'on oublie, l'ouvrier, c'est l'oublié à Vesoul comme à Shanghai, à Bucarest comme à Dubaï. Pourtant, Toyota, c'était pas seulement l'excellence, la robustesse, la qualité de ses voitures qui faisaient l'unanimité, l'admiration planétaire, l'accomplissement sublime du capitalisme industriel et nippon. C'était aussi le social, un modèle, des emplois à vie avec des logements, des garanties, une formation, un encadrement. Excellence, Toyota. Toyota est fantastique. Hier, vous avez appris pour la plupart d'entre vous un mot nouveau, kaloshi. Kaloshi, ça veut dire mourir au boulot, se crever au boulot. On a eu l'histoire de cet homme dont la mort a été reconnue comme telle. Ils sont nombreux au Japon, on ne sait pas combien. Et ils ne sont pas seulement au Japon, on l'a vu en France ces temps derniers. Alors on le voit, le côté social n'est plus ce qu'il était. Et on a même vu que ça n'a jamais été le cas finalement, ce paradis-là. En lisant le livre de Satoshi Kamata sur Toyota, l'usine du désespoir, écrit au début des années 70, on voit que les précaires à l'époque s'appelaient les temporaires, mais c'était bel et bien
la même histoire. Alors pourquoi cette image si flatteuse? Eh bien, c'est la pub, camarades. La com Toyota est un des plus gros annonceurs au monde et bien sûr le premier annonceur au Japon. La pub fait taire. Jadis, dans les pays soviétiques, au-dessus des immeubles, on pouvait admirer de grandes banderoles de propagande avec au-dessus le portrait du leader suprême et bien aimé sur 20 mètres de haut. Aujourd'hui, à la place, c'est Toyota. Oh, bien sûr, c'est pas la même idéologie. Et puis, malgré tout, Toyota a moins de morts au compteur que le sémillant Joseph Staline, certes. Mais un peu quand même, et pas seulement la pédale de frein, mais ceux qui ont fixé la pédale de frein, c'est-à-dire les pauvres ouvriers. Et d'ailleurs pas forcément les pauvres ouvriers. Un robot qui se dérègle, un robot bien fait, si parfait, qu'il commence à éprouver des sensations, des sentiments, par exemple au printemps, voyant les cerisiers en fleurs partout, ces fleurs éphémères comme la vie, eh bien le robot ému rêve, s'arrête et laisse passer une pièce. Il oublie de visser une vis et voilà comment Monsieur Toyota se retrouve avec 9 millions de bagnoles sur les bras. Les robots, à la fin de son livre, Satoshi Kamata observe des robots qui font le boulot. Il observe le mouvement des robots. Et de l'autre côté de l'atelier, il regarde des ouvriers affairés. Et il comprend quelque chose, Kamata. Il comprend que ce n'est plus le robot qui imite les gestes de l'homme, c'est le contraire. C'est l'homme qui, peu à peu, s'est mis à copier le robot. Toyota, travailler chez Toyota, de l'emploi à vie, à la course, à la survie. Hey ! Pétales sont des petits bateaux. On va là-bas, un peu plus loin. Là-bas, c'est très joli parce qu'il y a une petite famille à bord d'une barque. Ah ouais, ça c'est magnifique. Et avec les enfants, on va ramer sous les cerisiers, tu vois. Il s'agit de se mettre sous les branches basses et de se faire tomber des pétales dessus, quoi, voilà. Et maintenant, les mômes ont des pétales dans les cheveux, qui lui ont tombé tout autour d'eux. Ça, c'est rigolo, hein. Voilà la carte postale japonaise, voilà le printemps
à Tokyo et nous sommes en bateau, une petite barque comme ça sur ce canal, c'est très agréable, c'est très joli. Et avec Sanae, notre interprète et guide, et puis avec Satoshi Kamata, dont je viens à nouveau de parler, ce journaliste et écrivain très écouté, très lu au Japon, et redouté par Toyota. Un bonhomme tout seul qui est redouté par Toyota. Et il fut pas très bon pour lui aller se balader dans la ville de Toyota où nous allons aller dans un instant. Oui, parce que, je le disais, on l'évoquait hier, il a écrit en 72 un livre et qui faisait suite à un reportage. Il s'était embauché chez Toyota et il a raconté minute par minute ce qui se passe. C'est un reportage très très bien fait, très bien vu, et dont on tire des tas de conclusions. On n'aurait jamais dû croire ce qui s'est dit tant et tant depuis sur la perfection des conditions de travail chez Toyota. C'était évidemment bidon, et ça le reste très très largement, ce qui montre la puissance, la force extraordinaire de la propagande lorsqu'une entreprise comme celle-là est si puissante. 320 000 salariés à travers le monde et dans une quantité de pays, ça en impose, et ça en impose notamment aux médias, et pas seulement aux médias, à tout un monde aussi culturel, intellectuel, y compris des chercheurs qui très souvent aujourd'hui, hélas, sont obligés de financer leurs recherches et bien pas à travers des fondations, et il se pourrait que dans le fondement de ces fondations on trouve des lobbies pas très loin des intérêts d'une entreprise comme celle de Toyota, par exemple. Enfin, ceci est une autre histoire. Sauf qu'il y a des hommes qui ne sont pas contaminés par tout ça, et c'est le cas de notre ami Satoshi Kamata. Toyota. Tu as écrit un livre sur Toyota. Dans les années 70, tu as travaillé chez Toyota à l'intérieur, sur la chaîne. Et aujourd'hui, Toyota continue de représenter, vraiment lié à l'identité japonaise, au miracle japonais. Et puis, il y a ces incidents récents qui mettent en cause l'image de la marque. Parle-nous un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'on appelle le toyotisme ?
Le toyotisme, c'est l'humain qui contrôle le meilleur moyen.
C'est nier l'homme, le système qui nie l'homme au maximum.
Toyota, le problème, c'est que quand j'ai travaillé dans ce kit, 違ったのは、その非正規労働者というあの正社員でない社員が、あのつまり季節工とかそういうのが3分の1まで増えたことと、それから下請けとか孫請けというその、階層に従ってそこに、日系ブラジル人とか中国人とかベトナム人とかそういう外国人労働者がいっぱい入ってきたことです。それがものすごく変わった。
Si on compare Toyota avec l'époque où j'y ai travaillé, je pense qu'il y a vraiment deux choses qui ont fondamentalement changé. La première, c'est que Toyota emploie moins avec des contrats à durée indéterminée, mais plutôt avec des contrats à très courte durée. Il a pratiquement triplé donc ce nombre de précaires. Et ensuite, il fait de plus en plus appel à des sous-traitants qui eux-mêmes sous-traitent, et qui emploie entre autres des Brésiliens d'origine japonaise et encore plus de précaires.
Alors ça, c'est des situations qu'on connaît en France.
ただ、トヨタが世界一になった理由っていうのは、そういう安い労働力を大量に使ったってことですね。トヨタの本社以外にも、その下請け、孫請けという。
Oui, mais il faut quand même dire, répéter que Toyota est devenu certes peut-être numéro 1 dans le monde, mais à quel prix ? C'est au prix d'emplois vraiment sous-payés chez eux, mais surtout ils ont créé un système de sous-traitance et de sous-traitance en demandant à chaque sous-traitant de baisser à chaque fois leur prix. Donc eux-mêmes étaient obligés d'employer des gens de la main-d'œuvre à encore moindre coût, et ainsi de suite. Donc peut-être numéro un, mais à quel prix ?
とうとう買った68万4千円トヨタオートへ
ジャポネホ
ー。伊藤圭司エジソン
Allez, Brésil, Jean.
Je suis brésilien, je m'appelle Ito Keiji Edison.
Et tu appartiens à la communauté des Japonais du Brésil qui se sont installés ici, au Japon, et qui ont des problèmes actuellement. Alors, quand est-ce que tu es venu ici? Quand est-ce que tu es venu au Japon?
Je
suis arrivé en
1994.
Au Brésil, il n'y avait pas de travail. Et puis moi, ici, je pouvais obtenir un visa. Alors, je suis venu.
C'est-à-dire que c'était une main-d'œuvre immigrée qui avait l'avantage de ne pas être complètement étrangère, puisque c'était des descendants de Japonais.
Oui, c'est ça. Il y a pas mal de Japonais qui vivent en Amérique latine. Oh, on sait pour le Pérou, on sait pour le Brésil. Par exemple, à São Paulo, au Brésil, il y a une grande communauté japonaise depuis longtemps. C'est dans cette communauté que l'industrie japonaise du Japon a recruté de la main-d'œuvre pour venir ici participer au grand boom économique japonais.
Au début, c'était vraiment très dur. Parler, c'était très dur. Manger, la nourriture ne me convenait pas. Tout était dur.
Pourtant, les Japonais du Brésil parlent japonais, non?
Certains savent parler, mais ils savent parler un japonais tellement vieux qui existait ici à une époque, mais qui n'est plus le japonais de maintenant ici.
Donc, si bien qu'on se moque de toi, un petit peu comme nos Québécois en France.
Oui, dès que je parlais japonais, tout le monde rigolait.
Après, je me suis habitué à la vie locale. Et là, on continue en portugais.
Ouais, c'est bien.
Mais ça, c'est ça, en Toyota. Ça, c'est un shopping, ça, non, c'est autre chose à
faire. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire ici à Toyota. Il n'y a rien d'autre à faire qu'aller faire des courses.
Non, c'est autre chose à faire ici.
Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire ici.
Nikkeijin, on les appelle, ces immigrés, qui ne sont pas véritablement des immigrés par rapport aux lois japonaises, parce que le Japon, c'est encore la loi du sang, c'est-à-dire que les Japonais qui ont migré au Brésil ou au Pérou ou en Amérique latine, qui sont les descendants d'émigrés japonais partis en Amérique latine à différentes époques du XXe siècle, après la crise de 1929, et puis après 1945-1946, après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fui la pauvreté au Japon, eh bien, ils sont revenus, on les a fait revenir, invités par le Japon lui-même, qui était en proie, et qui est toujours d'ailleurs en proie à une crise de dénatalité aiguë, mais qui surtout se trouvait en manque de main-d'œuvre par rapport à la demande aussi. Sont-ils venus nombreux, beaucoup du Brésil, beaucoup de São Paulo, où vous vous souvenez peut-être, on avait fait un tour dans ce quartier de São Paulo avec cette communauté japonaise importante. Eh bien voilà, maintenant c'est à Toyota, au cœur même du Japon, qu'on rencontre ces Brésiliens, au moins ce qu'il en reste, parce qu'ils ont été invités à foutre le camp. Alors on dit pas comme ça, surtout au Japon, on dit aide au retour, c'est quand même beaucoup plus délicat, mais ça revient à ça. Et puis depuis des années, ces Japonais brésiliens font l'objet d'une stigmatisation. C'est des choses, vous voyez, comme ça nous rapproche quand même de ce qui se passe chez nous, de ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui nous a intéressé tout au cours de ce voyage, c'est de voir comme à quel point on est proche et comment l'image qu'on a de ce Japon, c'est une sorte de barrière, de mur, d'incompréhension entre deux cultures si opposées. Il y a de profondes différences culturelles, sans doute, sans aucun doute même, d'histoire, de mœurs, etc. Mais enfin, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui nous rapprochent et qui nous donnent un destin commun.
Ah non, non, t'es travaillant agora.
J'ai pas de boulot en ce moment.
Depuis quand t'as plus de travail?
Ah, c'est deux mois que je suis au Paris.
Là, ça fait 2 mois que je suis au chômage.
2 mois. Est-ce que tu as eu des indemnités?
Et agora tô recebendo seguro desemprego, sim.
En ce moment là, j'ai une aide de chômage.
É 90 dias.
Ça dure 90 jours.
Aí acaba.
Après, au bout de 3 mois, ça s'arrête.
Mais alors, les Brésiliens sont encouragés, sinon poussés, à rentrer au Brésil. On m'a dit qu'ils partaient par avion entier.
Ah, meus amigos, quando acabou o seguro-desemprego, a maioria foram embora, porque não encontraram serviço, né? E como que o governo estava dando os 300 mil em ajuda, aí o pessoal aproveitou e foi embora.
Bah, les amis avec qui je suis venu au début, avec qui on travaillait, qui étaient venus avec moi du Brésil, bah, quand il n'y a plus eu de boulot, et comme il y avait le gouvernement qui donnait des aides pour pouvoir retourner au Brésil, la plupart d'entre eux sont aujourd'hui retournés là-bas.
Et le gouvernement, ils deram un prazo de 5 ans pour ne pas voltar, né? Com essa ajuda, ils deram un prazo de 5 ans pour ne pas mais voltar pour le Japon.
Mais par contre, il y a une condition pour cette aide gouvernementale, c'est qu'il faut s'engager à ne pas revenir au Japon pendant au moins 5 ans.
Donc on te paye le prix du billet, on te fout dehors avec un billet en somme. Voilà, et pourquoi tu veux pas rentrer toi alors?
Il y a beaucoup de espero ajuntar un peu plus de dinheiro, né, para mim tentar montar um negócio lá no Brasil, né?
En fait, ce que je veux c'est de me faire des petites économies pour pouvoir après ouvrir un magasin au Brésil.
Ah, voilà. Mais comment tu peux te faire des économies maintenant puisque tu n'as plus de boulot et que tu n'as plus qu'un mois d'indemnité de chômage?
Eu vou colocar ela na creche, a criança na creche. Aí eu vou procurar, vou fazer arrobaite ou alguma coisa assim.
Ce que je vais faire, c'est que bientôt je vais lui trouver une place à la crèche, à la petite Natacha, et puis après, bah, je vais essayer de faire des boulots à droite à gauche, des arbeite, comme on dit.
Arbeite, ici, c'est un mot qui vient de l'allemand, donc de Arbeit, et c'est des jobs payés à l'heure. Par exemple, des jobs étudiants qui travaillent dans des supermarchés, qui travaillent dans des services, qui travaillent dans la restauration, et c'est fixé à l'heure.
Mais t'as pas envie de rester ici, quoi. Qu'est-ce qui te déplaît? C'est charmant ici, le Japon.
Ah, eu não pretendo ficar aqui muito tempo, não, já.
J'ai pas envie de rester ici beaucoup plus longtemps.
Porque o salário está baixo já.
Maintenant, le salaire est bas ici aussi.
Onde que eu estava trabalhando era 1.400.
Là où je travaillais avant, c'était 1.400.
E agora baixou para 1.200.
Et maintenant, ça a descendu à 1.200 yens.
Por hora, isso. Por hora.
Tout ça par heure.
1.200 yens de l'heure.
Ouais, ça fait 10 euros à peu près.
10 euros pour faire quoi?
É, autopeça, né? A firma é terceirizada, faz peça para Toyota.
C'est, bah, c'est des pièces, des sous-traitants pour des pièces automobiles pour Toyota.
Est-ce que tu sens une ségrégation? Est-ce que tu sens du racisme contre les Japonais brésiliens?
Tem muita discriminação aqui, né?
Ouais, il y a beaucoup de discrimination ici quand même.
Eles tratam a gente como burro, né?
Traitent les gens comme des ânes.
Que a gente, eles pensam assim que a gente não sabe fazer nada, né?
Comme si on savait rien faire, comme si on était des incapables.
Eles pensam assim que no Brasil não tem nem televisão, nada. Eles fazem.
Ils pensent qu'au Brésil on est sous-développé, qu'on a même pas la télé.
Ah, eu acho que é racismo.
Moi, je pense que c'est vraiment du racisme.
Meu sangue é. O sangue é japonês mesmo, né?
Mon sang est japonais.
Não sou mestiço.
Moi, je suis pas un métis.
Mesmo assim, eu sou discriminado aqui.
Et pourtant, je suis discriminé ici.
Mais ça se voit pas sur ton visage que tu es brésilien quand même.
A hora que conversa, né? Ah, ele já sabe já que.
Mais dès que je parle, les gens, ils s'en aperçoivent tout de suite.
Ah, d'accord. Et là-bas, il n'y a pas de problème au Brésil pour les Japonais?
Antigamente, sim, muito.
Avant, oui, beaucoup.
Mas agora que o Japão evoluiu muito, né? Agora não, agora eles tratam bem.
Mais maintenant que le Japon est un pays très développé, alors là, il n'y a plus ce racisme, on est bien traité.
C'est ça, c'est-à-dire que le racisme, c'est toujours vers le plus faible. Il n'y a pas de racisme envers les riches et les puissants. Le racisme, il tape sur les faibles. Ce qu'il raconte là est formidable, parce que quand les Japonais sont arrivés, c'était sans doute des gueux qui n'avaient pas grand-chose ou des pauvres gens. Donc il y avait un racisme des Brésiliens envers ces Japonais. Et avec le développement du Japon, l'industrialisation, l'enrichissement du Japon, l'image prestigieuse et puissante du Japon, eh bien les ressortissants japonais du Brésil ont été respectés.
Et arrivés ici, ces Japonais du Brésil ont été traités comme des pauvres Brésiliens et donc méprisés.
C'est un malheur. L'horreur humaine. L'horreur est humaine.
Samito o yamasase nai de kudasai. Kirin ni hibiko hiki yo yurugasu shiwawase da. Totaro na shoko, totaro na shoko, totaro na shoko ne. Furu sensei no ki no hizumu sumi kara su
海まで VU のデス素晴らしき海美女美物応答書自然的絶対編集に太鼓が鳴るすみませんすみません賛美とがやってきます素敵に伸び伸びと今後おなる最近の人改善にコンピューターで作られた。
Là, on a eu du mal, hein. On a eu du mal, on a eu du mal, on a eu du mal. À trouver quelqu'un qui ose parler en son nom, sans masque et sans détour de ce qui se passe chez Toyota. Et c'est quelqu'un qui a passé 40 ans de sa vie chez Toyota et qui est juste retraité il y a très peu de temps. Il a passé 40 ans dans cette usine. Et il est toujours resté à la chaîne. 40 ans toujours à la chaîne. Alors que généralement, bien sûr, peu à peu, on monte de grade en grade, etc. Mais voilà, ce que voulait faire Sakai, c'est créer un syndicat pour lutter contre les conditions de travail, pour lutter comme un syndicat doit lutter. Et c'est à cause de sa volonté de lutter, d'améliorer les conditions de travail, qu'il a toujours été assigné à la chaîne. Aujourd'hui, il est retraité, mais il continue le combat et il va nous raconter ce qui s'est passé au cours de ses 40 ans chez Toyota. D'abord, la question syndicale. Pourquoi tu voulais créer un syndicat déjà ?
Il existe un syndicat au sein de Toyota, mais ce syndicat n'aide absolument pas la condition des travailleurs. Donc, j'ai eu envie de changer ça, et c'est pour ça que je me suis présenté.
Comment fonctionne le syndicat de chez Toyota ?
C'est une section qui travaille avec l'entreprise pour écraser les travailleurs.
Voilà, ça existe aussi en France, on en a eu en France. Ce sont des syndicats maison au service de l'entreprise. C'est des syndicats d'accompagnement, on appelle ça, qui sont là pour seconder la direction. Mm-hmm. Ce que tu dis aussi sur la situation actuelle de Toyota, il y a la crise, il y a l'histoire des rappels de ces 9 millions de véhicules dans les usines Toyota à cause d'un défaut. Et tu dis que l'entreprise utilise ces deux éléments, la crise et les rappels, pour dire ça va mal, c'est un déficit, il faut faire des efforts, tout le monde doit faire des efforts.
Toyota は pinch は chance だっていうやり方なんですね。で、そういう危機が来た時にそれを利用してこういう時だからもっと働けと。で、もっと賃金を下げろと。
À chaque fois Toyota sait très bien utiliser la chance. Ils disent c'est leur façon de faire. Justement, il y a un problème, profitons-en. Serrons-nous tous la main, sinon notre société se porte si mal. Il faut qu'on se serre la ceinture tous ensemble pour surmonter cette crise si difficile. Et ils en profitent pour baisser les salaires et leur demander plus de travail.
Eh oui, tous ensemble, tous ensemble. Voilà, on est avec Sakai Shunichi. Alors, je le disais, il est sans doute pas représentatif du mouvement sociaux du Japon actuellement, mais il est tout à fait représentatif de l'histoire sociale du Japon. Saviez-vous, en tous les cas, moi je l'ignorais, qu'en 1885, par exemple, à Takashima, il y a eu des émeutes, et sur 4000 mineurs, on déplora 875 morts. C'est pas mal quand même, 875 morts massacrés par les forces de l'ordre. Je prends au hasard quelques moments de ces luttes sociales entre 1949 et 1951. Outre l'arrestation de 24 cadres du Parti communiste, près de 2000 fonctionnaires et près de 10 000 employés sont licenciés, dont 700 journalistes. 5500 syndicats disparaissent, entraînant la désyndicalisation de 880 000 personnes. Ça, c'est 49-51. C'est au moment où les États-Unis occupent le Japon. Mais auparavant, entre 1931 et 1940, près de 75 000 militants de tendance contestataire sont arrêtés et emprisonnés. De nombreux leaders communistes, contraints de suspendre toute activité militaire, subissent une conversion forcée tandis que d'autres croupiront en prison jusqu'à leur libération par les Américains en 1945. Je prends simplement quelques exemples, quelques moments, pour dire que la lutte sociale a été et continue d'être au Japon, bien ce qu'elle est ici. Il y a des différences, bien sûr, mais aussi, il y a des comparaisons possibles. On s'étonne quand on interroge des gens de chez Toyota ou des usines aussi, des sous-traitants, de la formidable docilité des gens et qui obéissent et qui sont de véritables petits soldats. Mais quand on voit les pressions que tu évoques, c'est-à-dire des pressions sur les salaires, des pressions sur la promotion, des pressions sur la formation, évidemment c'est dissuasif pour les autres. Voilà qui rend les gens dociles. C'est pas parce qu'ils sont japonais, c'est parce qu'ils ont peur.
Surtout, もう一つトヨタの特徴は、会社も言ってるんですけど、車作りは人作りだって。
Et puis parce que Toyota dit construire une voiture, c'est construire quelqu'un.
そのワンピース一つ一つは些細なことなんだけども、それがたくさん積み重なって。
C'est un système qui fait que chaque personne ne s'en rend pas compte, mais il est une pièce indispensable au puzzle. Et si on en retire un, le puzzle ne marche plus.
例えばそのうちの一つを例を挙げると、例えば朝健康観察とかね、私は今日は健康ですとか。
Par exemple, tous les matins, en arrivant à la boîte, il faut dire « Est-ce que je suis en forme ?» Il y a un petit formulaire « Rond ou croix ?» Alors, rond, oui, je suis en forme pour travailler. Deux, est-ce que j'ai bien pris la route la plus directe pour aller de chez moi à l'usine ? Rond. Trois, est-ce que j'ai bien salué mon supérieur ? Rond.
40, 50 ans, les adultes, ils ont écrit ça.
Mais imaginez un homme de 40 ans, 50 ans qui est obligé, qui est réduit tous les matins à dire est-ce que j'ai bien salué, est-ce que j'ai bien pris la bonne route, est-ce que j'ai bien fait ça. Avec ce formulaire qui n'a l'air de rien, tous les mecs se disent le matin ok, j'ai qu'à remplir ce papier. Ils arrivent à mettre dans la tête de la personne que oui, ils sont soumis à la boîte et que oui, ils doivent, par des petites choses de ce type, dire oui quoi qu'il arrive. Moi-même, j'ai rempli ce papier pendant des années en me disant mais à quoi sert ce putain de papier. Il m'a fallu des années pour comprendre. Mais c'est là le point important à mon sens, et c'est vraiment là. Vraiment, à mon avis, c'est là le point le plus important, c'est de faire en sorte que la personne accepte d'être complètement soumise à la boîte sans qu'elle ne s'en rende compte. Ce n'est pas conscient, et à mon avis, c'est là le point très important.
Notre planète se réchauffe, occasionnant la fonte des glaces. La protection de l'environnement est l'affaire de tous. Bientôt, Toyota commercialisera en France la Prius et son moteur hybride. C'est un des nombreux exemples de l'engagement actif de Toyota pour l'écologie.
In France, in French, in French, no, no French. Japonais.
Toyota のその人作りに染まって従順な人間になるか、それとも会社を辞めるか。で長い間にまともな神経を持った人はどんどん辞めていく。
Chez Toyota, soit les gens se plient au système Toyota, soit ils démissionnent de Toyota.
だから会社の会社人間って言うんだけど、会社に従順な人間か、私のように志を持って変えようというにこの2種類。
Il n'y a que deux types de personnes qui sont capables de rester chez Toyota, ceux qui sont dévoués à Toyota complètement, et puis des gars comme moi qui restent pour essayer de changer quelque chose.
Comment veux-tu syndiquer des précaires et des intérimaires ?
Japon の場合は、その法律を変えて、そういう下請けをいじめるとか、派遣とかやれるようにしたわけだから、やっぱり大元の政治を変えようと。
Je pense qu'on n'a pas d'autre solution que de changer les lois de ce pays et les lois du travail. Mon fils a 22 ans, il travaille chez un sous-traitant, c'est-à-dire trois sociétés en dessous de Toyota.
Par exemple,
là, il dort, puisqu'il est de nuit cette semaine. C'est vraiment dur, c'est vraiment très dur ces conditions de travail. Il a tous les jours des heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées puisque la loi interdit de faire des heures supplémentaires au-dessus d'un certain seuil. Donc on lui dit, on te le paiera le mois prochain. Il y a des lois quand même ici dans ce pays, avec des lois sur les congés et les repos et les week-ends. Tout ça, on n'en tient pas compte.
Je vous trouve très héroïque et très courageux parce que toi, tu milites à la sortie de Toyota ici. Mais vous n'êtes pas très nombreux, vous êtes 6-7.
7-8 人で宣伝カーで門前行って月に1回宣伝するんですけども。で、1人交代でマイクで喋りながら他の人はビラを巻くんですね。
À 6 ou 7, donc nous allons devant la porte des usines, une fois par mois. Il y en a un qui parle dans les mégaphones et les autres distribuent des tracts.
De ce sens, le travailleur et le travailleur de l'usine
Et à ce moment-là, les gars du syndicat maison plus des employés de Toyota sortent, se mettent en rang à plusieurs devant nous et disent aux ouvriers qui sortent, n'acceptez pas les tracts.
それと音楽を流すんですね。で今は普通の音量で流してますけども、昔は60年代70年代80年
代の頃は、耳が壊れるような大きな大音量で、耳が壊れるような大きな大音量で、耳が壊れるような大きな大音量で、耳が壊れるような大きな大音量で、耳が壊れるような大きな大音量で、耳が壊れるような大
きな大音量で、des salariés, des travailleurs de Toyota quand tu leur tends ce tract.
Alors, ほとんど受け取らないんですけども、で一時は私も受け取らないもんでがっかりして挫折しそうになったんですけども。
La plupart ne les acceptent pas. Et d'ailleurs, ça me rendait triste. À une époque, j'ai même été un peu découragé dans mon action. Personne n'acceptait mes tracts. Et un jour, un des aînés m'a dit, quand tu distribues un tract, regarde bien la personne dans les yeux, adresse-toi bien à elle.
そうしたらね。相手の人が私もそれやったら相手の人がどうなったら相手がビラを受け取らないんですけど目を伏せていくんですね。
Effectivement, je m'adresse bien à eux et je leur dis bonjour et je leur tends le tract. Ils ne prennent pas le tract et ils baissent le regard, ils restent par terre.
それを見て私は労働者信頼できるなというふうに思いました。
Et là, je me suis dit, en fait, on peut leur faire confiance.
それ以来ビラを受け取らないんですけども同じように。その人の目を見て訴えて、で今では昔はいらないとかね、やめろとか言ってくる人がいたんですけども。
Peut-être qu'il n'accepte toujours pas le tract, mais autrefois on disait va-t'en, on n'en veut pas, qu'est-ce que tu fais ici? Mais aujourd'hui?
今では受け取らないんですけども、おはようとか、あるいは頑張ってるねとかね、頑張れよとかっていう風に一声かけていく人が増えてきました。
Il n'accepte toujours pas mon tract, mais ils me disent bonjour.Ils répondent et puis ils me disent « Allez, courage, on est derrière toi !»
Voilà, c'est gay comme tout, non, pour finir ce reportage à...Toyota, un reportage avec Guy Ventil, traduction Sanae Lefebvre. Merci à tous, à Satoshi Kamata, Toguchi Masashi, à Jean-François Sabouret également, un livre très passionnant de Jean-François Sabouret, c'est Besoin de Japon, très beau livre. Merci à Martine Bullard, à Tsuko et Pierre Barou, Pierre Le Balou, et merci à Sakai Shunishi et Ita Keiji Edison, notre ami portugais, brésilien, japonais.À lire le livre de Satoshi Kamata dont on a beaucoup parlé dans cette émission, Toyota, l'usine du désespoir. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. Là aussi, vous pouvez faire des commentaires et voir quelques photos, quelques images de ce reportage. À la technique aujourd'hui,Olivier Daligo et Yann Malisewski, Koy Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebotte et Céline Rouzet. Attends vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Alors c'est vrai. Ce décor sonore est insupportable. Mais on a demandé à la dame, gentille dame qui là-bas sert le thé, les cafés et les petits gâteaux, de bien vouloir baisser le son, le niveau sonore de ce restaurant. Et alors elle a baissé, mais elle nous a dit c'est pas possible, on peut pas baisser en dessous d'un certain niveau. Alors on la soupçonne en fait, elle aussi, d'obéir. Elle aurait très bien pu débrancher, par exemple. Il devait y avoir une prise pour débrancher cette putain d'appareil. Mais just in time.
De plus en plus de gagnants loto, vous êtes là ?
C'est à propos du jackpot de ce mercredi.
Oui.
Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y aurait a priori
7 millions d'euros à gagner, oui.
Oui, voilà, mais la mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde va jouer.
Il y a des chances.
Cela dit, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut gagner, même moi.
La chance appartient à tout le monde.
Oui, bon bah, la mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde peut gagner, même les autres.
C'est le principe.
Oui.
Loto, la chance appartient à tout le monde.
Bon, c'est une bonne nouvelle.
Alors dépêchez-vous, ce mercredi, le jackpot est de 7 millions d'euros, montant à partager entre les gagnants du premier rang. FDJ.
Ok, on y retourne, on parle mise en relation avec des partenaires pour EDF Pro. Luc.
En cabine.
Nat.
Au micro.
Ok, on envoie.
Quand on veut refaire l'isolation ou le chauffage de son local pour le rendre plus économe en énergie, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Alors EDF Pro vous conseille et vous propose une mise en relation avec des partenaires qualifiés pour réaliser vos travaux.
Top numéro.
Renseignez-vous au 0810 333 776. EDF. Changez l'énergie ensemble.
Et la mention.
Tout de suite, près d'un appel local sauf sur coût imposé par certains opérateurs, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
Ça me va, c'est clair. 13 EDF Pro.
Voilà, il va être 16h sur France Inter. On va se retrouver demain à 15h pour la basse. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.
Que s'est-il passé dans le cockpit de l'avion du président polonais qui s'est écrasé en Russie le 10 avril dernier? L'enquête révèle qu'au moins deux personnes ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvaient peu avant le crash, dont le chef de l'État lui-même, Lech Kaczynski. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'organisation russe chargée de l'enquête. Une information qui pourrait relancer l'hypothèse selon laquelle les pilotes auraient subi des pressions pour atterrir malgré les risques. L'enregistrement des voix dans le cockpit prouve qu'ils ont été sommés par deux fois de renoncer à l'atterrissage. La SNCF a fait ses comptes. Le blocage toute l'après-midi d'hier de la gare Montparnasse par des infirmiers anesthésistes en grève va coûter près d'1 million d'euros à l'entreprise. Guillaume Pépi, son président, a porté plainte et se dit scandalisé. Les grévistes, eux, ont semble-t-il été entendus avec cette opération coup de poing. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, affirme en effet qu'elle comprend leurs revendications et a promis une revalorisation de leurs diplômes avant la fin de cette année. Le projet de loi interdisant le port du voile intégral, adopté en Conseil des ministres ce matin, le groupe du Parti socialiste à l'Assemblée ne déposera pas de recours devant le Conseil constitutionnel, a fait savoir son chef de file, Jean-Marc Ayrault. La première secrétaire, Martine Aubry, a de son côté indiqué que le PS n'avait pas encore pris de décision. Pour Jean-Marc Ayrault, maintenant qu'un simple citoyen peut saisir les sages, il ne fait de toute façon pas de doute qu'ils seront interpellés à un moment ou à un autre, d'où son insistance à défendre un texte juridiquement applicable. Les débats gauche-droite s'annoncent vifs au Parlement où le texte sera présenté cet été. Le Premier ministre monte au créneau pour dénoncer le projet socialiste de réforme des retraites. Il accuse le PS de se contenter de proposer, je cite, une série d'expédients et une avalanche d'impôts nouveaux pour les classes moyennes notamment. François Fillon s'exprimait tout à l'heure lors des questions à l'Assemblée nationale. De nouvelles inquiétudes en Floride. La nappe de pétrole qui s'échappe du puits dans le golfe du Mexique a été happée par un puissant courant marin et se dirige actuellement vers l'archipel des Keys. Il pourrait être touché d'ici 5 ou 6 jours selon les experts. La zone interdite aux pêcheurs a par ailleurs été doublée hier. Elle représente désormais 19% des eaux territoriales américaines de ce golfe. La tension reste très vive en Thaïlande où le couvre-feu nocturne vient d'être instauré à Bangkok, la capitale, mais aussi dans 23 provinces du pays. Les autorités craignent la multiplication des actes de violence de la part des sympathisants des chemises rouges assez présents en province. Il y a eu des affrontements dans 7 d'entre elles et des bâtiments incendiés dans 3 villes aujourd'hui. À Bangkok, la nuit tombe. Les manifestants de l'opposition ne se sont pas encore tous rendus à la police et plusieurs bâtiments sont toujours en feu. Mais les dizaines de salariés d'une chaîne de télévision qui était bloquée par les flammes ce matin ont tous pu être sauvés.
France Inter et les Bouffes du Nord présentent Tempête, la toute dernière création d'Irina Brook, une adaptation du texte de Shakespeare où le burlesque côtoie le féerique. Retrouvez Irina Brook du 26 mai au 19 juin au Théâtre des Bouffes du Nord et dans les émissions de France Inter.
France Inter, partenaire du Festival Musique Métis à Angoulême sur l'île de Bourgine du 21 au 23 mai. 3 jours de concerts, 30 groupes. Youssoundour, Salif Keita, Angélique Kidjo, Carlinhos Brown, Mahmoud Ahmed, les tambours de Burundi. Retrouvez-les le 23 mai dans l'Afrique Enchantée à 17h. Musique Métis à Angoulême avec la Charente Libre et France Inter. Renseignements, franceinter.com.
N'essayez pas de régler le volume de votre récepteur.
Vendredi, Starlet et Tralala. Parking de nuit vous propose une heure de stationnement en canorama. Nous lirons des extraits de nouvelles traitant avec émotion et humour du petit et du grand cinéma.
Ça, on peut vous dire tout de suite que ce 18e festival renoue vraiment avec la grande tradition, enfin celle d'il y a 10 ans, où il y avait des vedettes dans tous les coins, des vedettes à foison et vraiment de très belles vedettes.
La vedette de notre séance drive-in est Pierre Lescure. Il évoquera pour nous ses meilleurs festivals de Cannes et nous fera part de quelques anecdotes aussi croustillantes que des gaufrettes amusantes.
Les photographes crépitent et Stallone s'accroche à mon bras et commence à me parler dans l'oreille. En fait, il avait rigoureusement rien à me dire. Le problème était qu'il ne voulait pas se lever, car lui fait 1m58. Les photographes n'arrêtaient pas de crier « Enfin, monsieur Lescure, mais laissez-le tranquille, mais laissez-le tranquille !» Et l'autre me disait « Don't leave me alone
!» Parking de nuit, vendredi, 21h-22h, France Inter.
France Inter, la différence.
16h04, l'après-midi se poursuit en musique avec vous Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir et le très grand honneur de recevoir aujourd'hui le maestro Daniele Gatti, fameux chef d'orchestre. Bonjour Daniele.
Bonjour, bonjour.
Et alors, vous êtes le directeur musical de l'Orchestre National de France depuis septembre 2008, succédant à Kurt Masur. Et vous êtes déjà très aimé des musiciens parce que je rencontre beaucoup de collègues qui me parlent de vous, de votre façon de travailler, très en détail, de manière très tenace, et puis de votre nature en scène après, de très beau tempérament. D'autre part, qui est-ce qui peut se vanter de diriger le Met à New York dans la même saison, l'Opéra de Zurich, la Scala de Milan, le Festival de Bayreuth et à Salzbourg aussi. Et bon voilà, plein d'activités et vous avez un concert là qui arrive, c'est vendredi 21 au Théâtre des Champs-Élysées. C'est un peu la fin de la saison mais on commence évidemment à la rentrée après les vacances, après les grandes vacances. Donc il y aura Richard Wagner, Schoenberg, Claude Debussy et David Frey comme soliste, le chœur de Radio France, Mathias Breuer qui est le chef de chœur. Alors racontez-moi. Quand vous étiez petit, vous aviez évidemment une attirance pour la musique, c'est-à-dire que vous avez été attiré. Mais en même temps, il y avait le football, c'est-à-dire que vous avez hésité quand même.
Non, pas trop. Non. Le football, il est toujours pour moi
c'est
passion
pas parti, c'est
incroyable.
Pas parti, oui,
le seul problème, c'est que je ne peux pas plus jouer comme j'ai joué il y a quelques années, parce que je suis un peu grandi, alors ça c'est le problème.
Il veut dire qu'il s'est un petit peu épaissi, mais non. Non, vous êtes très bien comme ça, voilà. C'est bon pour la sonorité de l'orchestre, hein, c'est bon.
Exactement. Mais pour les sons, c'est fantastique, ça. Mais on doit contrôler aussi le cœur, les physiques.
Oui, c'est très physique, la direction d'orchestre. C'est quelque chose, on transpire beaucoup, on se fatigue.
Tu vas parler de quand j'ai commencé.
L'enfance, oui.
C'est difficile pour moi de dire exactement quand. Je me rappelle que, c'est mon parent qui m'a conté ça. Je me rappelle que, par exemple, le cadeau de Noël, à l'âge de 4, 5 ans, était peut-être une petite bagnole, jeu comme ça, et toujours un instrument musical. En boîte, toujours, comment dire, un piano,
une trompette, un petit
tambour comme ça, non?
Petit tambour, oui.
Et à la fin, le jour de Noël, après avoir joué avec les autres, mon intention allait toujours vers l'instrument musical. Et j'ai commencé comme ça, avec un petit clavecin électrique.
Oui.
Et après, le piano est arrivé à ma maison à l'âge de 8 ans, comme un cadeau de anniversaire.
Oui.
J'ai commencé à jouer par oreille, sans étudier, écouter les chansons de pièces de musique, et surtout pièces de musique légère, qui à quel temps étaient facile d'écouter à la radio.
Votre père vous passait quand même un disque de musique presque tous les soirs. Hein,
oui, mais quand j'ai commencé à le conservatoire, j'étais un peu mature, 12, 13 ans. À quel âge, je me rappelle pas de la musique classique, mais j'écoutais dans la radio un mot, une chanson, et après,
tout de suite,
sur le piano.
Vous retrouvez les notes.
Oui,
bon,
on va
expliquer la suite et vous écoutez tout de suite se diriger l'Orchestre National de France. C'était le 23 octobre 2008 au Théâtre des Champs-Élysées. Donc, la conclusion, les gros avec esprit de la deuxième symphonie de Johannes Brahms.